Alors, bonjour à tous. L'intitulé, j'arrive, je débarque là, hein, vous le constatez, du train. Je sais que j'ai regardé des programmes, j'ai vu que sur 5 jours, il y avait 2 séquences, 3 premiers jours, c'est fini, et une 2e séquence là. Deuxièmement, j'interviens aussi en remplacement de quelqu'un, un autre collègue du HCEAC, c'est-à-dire le Haut Conseil de l'Éducation Artistique et Culturelle, mais qui voulait, bien entendu, faire une autre intervention que celle que je vais faire. Alors, moi, je me présente, je suis professeur des universités émérite, ça veut dire que je ne suis plus en pleine activité, ce qui ne m'empêche pas de travailler pour autant. Ma spécialité, c'est les arts plastiques, plutôt appliqués, et puis histoire de l'art, bien entendu, et tout ce qui tourne autour, et c'est le tout dans l'université de Paris 1, dite Panthéon-Sorbonne, voilà. Alors, il se trouve par ailleurs que les hasards de la vie font que si j'ai, comme chacun doit le faire quand on a ce métier, enseigné, dirigé des recherches, fait des recherches, etc., etc., j'ai eu aussi la possibilité d'intervenir au plus près des endroits où on croit que se prennent les grandes décisions, c'est-à-dire les ministères. J'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie, dans une première séquence, disons pour les années, si vous voulez, 70, j'ai été consulté à plusieurs reprises pour mettre en place les enseignements artistiques à l'université, qui n'existaient pas. Il n'y avait que l'histoire de l'art et un tout petit peu d'esthétique. Et sont arrivés progressivement les arts plastiques, la musique, puis un petit peu plus tard le théâtre, le cinéma, etc. Et actuellement, sur 80 universités ou un peu plus, il y en a un peu plus de la moitié qui ont des filières artistiques. Donc c'est plutôt quelque chose de réconfortant à constater. Ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point, je suis en train de dire pourquoi je me permets de vous dire ce que je vais vous raconter après. Voilà, c'est plutôt des choses vues de l'intérieur, et c'est le titre que j'avais donné à mon intervention, à savoir une petite histoire de l'histoire des arts racontée de l'intérieur. Voilà. Donc je ne vais pas, je le précise tout de suite, reprendre les programmes que vous avez lus, décortiqués, travaillés, sous-pesés, contestés, approuvés, etc. Vous le savez parfaitement, mais je vous dirai des choses autour, le pourquoi, du comment on est venu là, etc. Alors, je reviens sur ce que j'avais commencé il y a quelques instants. En 1982, j'ai été appelé au ministère pour prendre la direction de ce qu'on appelait la mission des enseignements artistiques. Voilà. En 82, jusqu'en 86, très régulièrement, je vais vous parler de l'alternance politique. L'alternance politique était quelque chose de tout à fait important. Si vous voulez, pour simplifier, au début des années 80, la gauche avait la réputation, et revendiquait cela, de s'intéresser aux arts et à la culture, alors que la droite ne s'intéressait pas du tout à cela. C'est ce qu'on disait. Donc, quand la gauche est arrivée au pouvoir, de 81 à 86, après l'élection de Mitterrand, eh bien, elle a cherché à mettre en place des éléments susceptibles de confirmer cet intérêt pour les arts et la culture. Et donc, on m'avait confié cette mission qui a duré jusqu'en 86. À ce moment-là, retour de la droite, Monory est arrivé, il a supprimé la mission. Mais néanmoins, je n'ai pas été mis à la porte. Voilà. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, quel que soit le niveau, quand on n'est pas fonctionnaire en titre au ministère ou dans les ministères, on est appelé et on est viré avec la même brutalité et la même soudaineté. Ceci concernant aussi les ministres, comme vous le constatez quelquefois quand il y a un remaniement gouvernemental. Alors si je vous dis cela, c'est que cette alternance-là a eu un mérite. Quand la gauche est arrivée, c'est ce que je vous disais, elle disait « nous, la culture et les arts, c'est nous ». Voilà. Quand la droite est arrivée aussitôt après, elle a dit « mais nous aussi, on est capable de faire aussi bien ». Et chacun, au cours de cette alternance-là, a voulu rajouter son élément particulier. Ça a donné un ensemble complètement inespéré et dont je vous parlerai tout à l'heure. Et cette aventure-là, bien, je l'ai menée, mais toujours parce qu'on m'a demandé de le faire, de 1982 à 2009, 15 septembre pour être plus précis, date à laquelle l'enseignement de l'histoire des arts a été lancé et où j'ai été considéré comme une plus utile pour le mettre en place, ce que vous faites, vous, de votre côté. Donc j'ai été, comme cela, le conseiller de 7 ministres successivement, et le tout, je précise tout de suite, à titre bénévole, discret, sans jamais renoncer à ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'enseignement, la transmission. Ce qui me permet de dire que je peux, sur toutes ces choses-là, raconter des histoires, non pas pour l'anecdote et le pittoresque, encore que, pourquoi pas après tout, mais simplement pour vous montrer comment fonctionne cette machine que vous ne voyez que de l'extérieur et dont vous ne voyez que la surface. Alors, je reviens maintenant à nos moutons, c'est-à-dire enseigner l'histoire des arts, et c'est l'intitulé de cette semaine de formation, qui est pour moi quelque chose, une initiative dont je vous remercie, madame, vraiment bienvenue, fondamentale, et dont je souhaiterais qu'elle serve d'exemple dans tous les lieux, dans toutes les académies, où on peut faire quelque chose pour la formation des acteurs engagés dans cette aventure-là. Alors, j'ai dit une petite histoire, une histoire, mais pas qu'une histoire, ça ne sert pas à grand-chose de raconter la succession des événements, si ce n'est pas sorti de commentaires, d'explications, et si on ne fait pas apparaître, ce que j'espère arriver à faire apparaître, les intentions, bonnes ou mauvaises, qui se trouvent sous la production des textes et ce qui arrive, comme on dit, sur le terrain. Alors, le terme lui-même, histoire des arts, à mon avis, la première fois que dans le système éducatif, formation, c'est arrivé, c'est en 1969, justement à Paris 1, lorsque un collègue professeur en titre à cette époque-là a fondé l'UFR des arts plastiques et sciences de l'art. Et il y avait dedans une nouveauté considérable, c'était l'introduction d'un ensemble qui s'appelait « Histoire et analyse des arts ». Moi, j'aurais souhaité que ce titre-là, dans son ensemble, fût maintenu dans ce que vous avez à travailler vous-même actuellement. Parce que pour beaucoup, dire « Histoire des arts », ça n'implique pas forcément qu'il y ait autre chose que de l'histoire. Et le travail que vous avez à conduire est beaucoup plus complexe que cela. Certes, l'histoire est le fil rouge, ce qui donne sa cohérence et qui permet la continuité à tous les niveaux, de l'école primaire au collège, du collège au lycée. Mais ce n'est pas suffisant. Donc c'est une parenthèse. Alors, ce que je voudrais faire apparaître aussi, c'est que si cette histoire des arts apparaît comme maintenant quelque chose qui tombe comme ça, comme une fantaisie ministérielle, une de plus à durée de vie courte, une mode, si vous voulez, qui sera un jour ou l'autre abandonnée. Alors, je précise tout de suite que ce n'est pas, à mon avis, le cas cette fois-ci, et je vais vous en donner la raison. D'une part, je vais faire apparaître que ça ne vient pas comme ça brutalement. Il y a une maturation très longue. Je vous en ai donné un premier point, une première étape, en vous parlant tout à l'heure de histoire et analyse des arts à l'université de Paris 1, à partir du moment où, après 68, les universités parisiennes et les autres se sont fractionnées en fonction de leur idéologie politique, de leur spécialité et des moyens dont elles disposaient. J'ai pour la première fois, alors pardon, je vais dire quelquefois je peux pas faire autrement, mais je vous assure que c'est par respect du réel et pas pour montrer à quel point je suis quelqu'un de remarquable. Il y a plein de gens remarquables parmi vous, bien entendu, etc. Bon, mais je le dirai comme ça, dans toute simplicité. La première fois que j'ai proposé qu'il y eût dans l'institution, le niveau scolaire, c'est-à-dire école, collège, lycée, quelque chose qui pouvait s'appeler histoire des arts, c'est en 1989, Jospin étant ministre, il m'avait demandé de lui faire un rapport. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il se passe quelque chose? Alors je ne vais pas faire un discours sur la procédure des rapports, c'est une manie ministérielle quand il y a un problème, qu'on ne trouve pas de solution, qu'on veut gagner du temps et noyer le poisson. On demande à quelqu'un de faire un rapport. Alors on mobilise des gens, ils travaillent, on leur dit tout le temps qu'ils sont très beaux, très gentils, que c'est très utile. Et puis, en général, il y a un rapport d'étape où là, le cabinet, le ministre commence à s'inquiéter en disant « Oh là là, ça va beaucoup trop loin, cela ». Et on fait apparaître dans le journal du soir qui précédemment a dit « Le pré-rapport que nous nous sommes procurés », vous voyez ça très régulièrement, le ministre dit « Ça n'engage que les auteurs, nous-mêmes, etc. » Et quand le rapport arrive, c'est-à-dire beaucoup trop tard, 6 mois après, 1 an après, quelquefois après avoir mobilisé des gens travailleurs, intelligents, bénévoles, coûtés fort cher à l'État, eh bien le rapport, il sert à rien du tout. Pour le savoir, le ministère de l'Éducation nationale consomme à peu près 3 rapports par semaine. Ces rapports, certains en piquent un truc ou l'autre, et puis en général, eh bien, ils restent dans les armoires, sur les étagères, et quand il y a un siège bancal, eh bien, on cale ce siège bancal pour qu'il retrouve son équilibre. Moi, je dis ça sans agressivité, et rien du tout, hein, c'est comme ça. Moi, j'avais compris cela à l'époque, j'ai fait un rapport en me disant, il faut que le ministre le lise, et pour qu'il le lise, il faut surtout pas qu'il fasse plus de 40 pages, et il faut qu'il l'ait en 3 semaines. Eh bien, ça a marché, et là-dedans, j'avais mis à Jospin, parmi toutes sortes de choses, il faudrait mettre en place un enseignement de l'histoire des arts au collège et de l'histoire de l'art au lycée. Banco, dit Jospin, il écrit au recteur, vous faites ça, et puis ce qui se passe, vous le savez, 3 ans après, Jospin s'en va, il a des problèmes à cause de Claude Allègre en particulier, et c'est Jacques Lang qui lui succède pendant 1 an où il est à la fois ministre de l'Éducation nationale et ministre de la Culture. Alors Jacques Lang, très porteur des arts et de la culture, c'est moi, c'est ma spécialité. Il demande ce qu'on peut faire, il trouve ce dossier, et il dit on va le lancer. Mais il dispose exactement de 6 mois pour le faire. Vous savez qu'en 93, il y a des élections législatives, débâcle complète de la gauche, et il s'en va. Mais les textes sont prêts, une commission a travaillé, que préside à cette époque-là, à laquelle je participe, mais que préside Philippe Joutard, qui est recteur, historien, que vous connaissez aussi sans doute, de réputation. Et puis, le texte est donné à ce qui était la direction de l'enseignement scolaire, à un bureau qui est chargé de le mettre en œuvre. Mais voilà, le responsable du bureau prend ses vacances, à ce moment-là, pendant 15 jours, et il revient tout pimpant, mais entre-temps, Jacques Lang est parti, et c'est François Bayrou qui est arrivé. Et puis, le texte, il n'était pas sorti. Alors, scandale, catastrophe, etc. Mais c'est une chance. Parce que tout ministre qui arrive estime que ce qu'a fait le précédent n'est pas bien et que lui, il va faire mieux. Si le texte vient de l'opposition pour montrer qu'on est libéraux et républicains, on en prend une partie. Si c'est de la même majorité que le ministre qui arrive nouveau, on ne prend rien du tout, puisqu'on dit c'est un copain, il va le prendre bien et je vais faire beaucoup mieux que lui. Alors Bayrou arrive et il dit qu'est-ce qu'on peut faire. Un ministre qui arrive, il est au courant de rien, les 3/4 du temps. Hein. Il vient de notre ministère, de l'agriculture, de la défense, et puis tout d'un coup l'éducation nationale lui tombe dessus, donc c'est un cabinet qui s'en occupe. Alors, eh bien, on va lui présenter ça. Je suis toujours là, moi, auprès des directions pédagogiques, un peu à l'ombre, un peu caché dans le secteur moins visible. Donc, dans une certaine mesure, protégé. Alors, Bayrou demande ce qu'on peut faire. Moi, je convainc le cabinet où je connaissais quelqu'un avec qui j'avais travaillé, avec lequel j'étais pas très bien d'ailleurs, mais on devient très bien parce qu'il a aucune idée, il a besoin que je lui en donne. Alors, il va présenter ça à Bayrou, et Bayrou dit, ben moi je prends. Donc, il charge Darcos, qui était son directeur de cabinet à ce moment-là, de monter l'opération, et ça va devenir l'histoire des arts en option au lycée, que vous connaissez. Alors, l'histoire des arts en option au lycée, Darcos, qui est énergique, on a peu de temps, et il désigne 16 lycées volontaires pour mettre en place l'histoire des arts au lycée. Le jour de la réunion, un proviseur fait la mauvaise tête et il dit « Moi, même si on m'a désigné d'office, je prends ma retraite prochainement, je n'ai rien à faire, l'histoire des arts ne m'intéresse pas, je refuse. » Mais les 15 autres acceptent et c'est comme ça que la chose est lancée et qui existe actuellement avec un certain succès. Sur des textes produits donc précédemment par la commission Joutard. Cet enseignement-là existe encore. Et il a permis d'ailleurs de faire apparaître un certain nombre de choses. En particulier que tout ce qu'on me disait au début, c'est « mais qui va enseigner l'histoire des arts ? Personne n'est capable de le faire. » C'est vrai, il n'existe personne au monde qui puisse enseigner l'histoire des arts. J'ai pas dit l'histoire de l'art. L'histoire des arts, puisque c'est l'histoire de tous les arts. Je vois pas comment on peut être spécialiste de l'architecture, puis de la musique, puis du cinéma, avec la même pertinence, la même hauteur de vue, la même aptitude à transmettre ça à des élèves. Et sur le plan peut-être des savoirs personnels, on peut être comme Jean-Pic de la Mirandole, mais pour la transmission aux élèves, c'est autre chose qu'on attend de vous. Donc, ça marche et ça continue. Alors maintenant, il y a à peu près 150 établissements qui ont un enseignement de l'histoire des arts au lycée, soit au titre de la série L, ce qu'on appelle quelquefois l'option lourde, soit au titre des options facultatives qu'on appelle les options légères. En réalité, c'est assez difficile à le savoir. Autant on peut repérer les options lourdes parce qu'il y a des épreuves au bac, des épreuves substantielles, valorisantes, qui font que il se passe quelque chose. Alors pourquoi cet enseignement de l'histoire des arts pour lequel j'ai milité? C'est qu'après avoir ajouté aux arts plastiques et à la musique le cinéma et le théâtre, on constatait qu'il y avait des élèves qui sont intéressés par l'art, mais qui, pour des raisons qui sont les leurs tout à fait respectables, n'ont pas envie de s'engager dans une pratique artistique, mais qui ont envie d'aller à l'opéra, qui ont envie de décrypter des films, qui ont envie de regarder une exposition de peinture. Donc, on a rajouté, à partir de cet un autre groupe d'élèves qui existait latent, qui ne s'était jamais manifesté, et qui ont été tout à fait intéressés par l'enseignement de l'histoire des arts, dont j'ai eu le sentiment au début, parce que on m'avait demandé de le suivre un petit peu, donc de me promener, de voir des équipes de profs qui s'étaient constituées alors que la plupart d'entre eux ne savaient pas du tout ce que faisait l'autre, se disaient bonjour à la salle des profs, mais pas plus, et on se sont mis à travailler ensemble, et on rencontrait une situation valorisante qui leur a donné un travail fou, comme c'est. Et en même temps, j'arrive à dire quelque chose qui est un peu surprenant, presque indécent, quand on parle des enseignements en général, qui ont rencontré une situation de bonheur que ont trouvé aussi les élèves. J'ai trouvé des gens qui étaient heureux de cela, de faire cela, et qui, pour les élèves, eh bien, ont eu une arme de plus, si j'ose dire, pour avoir le bac et trouver une suite. Parce que je le dis aussi, il y a une suite après le bac. Ça s'appelle Histoire des arts, ça s'appelait Histoire des arts pour le premier cycle, Histoire de l'art après. Mais enfin, ce n'est pas un cul-de-sac, ce n'est pas un cul-de-sac. Alors, donc, vous constatez ça à travers cette rapidité-là, que, eh bien, il a fallu beaucoup de temps. Si j'estime que la chose est lancée en 89 avec Jospin, qui dit oui, mais n'arrive pas à terme, que le lancement officiel de ce dont vous occupez, c'est 2009, ça fait 20 ans. C'est vous faire apparaître que c'est le temps qui est nécessaire pour qu'il se passe quelque chose de nouveau, sous réserve qu'il y ait un suivi constant. Or, la catastrophe, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Que une réforme chasse l'autre, vous le savez, vous en avez sans doute par-dessus la tête, mais j'espère, il faut espérer que celle-là risquera de survivre. Et pourquoi peut-elle survivre? Elle peut survivre, parce qu'elle a été lancée par le président de la République. Voilà. Le président de la République, contrairement à un ministre, celui-ci, comme les autres depuis le quinquennat, est en place pour 5 ans. Je ne sais pas s'il sera réélu ou pas. Ce n'est pas le problème, si vous voulez. Mais dès le début, en 2007, en mai, il a dit « on va faire un enseignement obligatoire, école primaire, collège, lycée, un enseignement d'histoire de l'art ». Je ne me trompe pas. Je dis « de l'art ». Pourquoi? Parce que mes collègues universitaires, certains du plus haut niveau, sont allés trouver le ministre en lui disant « Vous qui êtes un homme de culture, ça fait plaisir à Sarkozy d'apprendre qu'il était un homme de culture, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, ce sera un enseignement de l'histoire de l'art. » Et ça a descendu dans la cascade et c'est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, à la DGESCO, si vous voulez, Jean-Louis Lambrini étant à ce moment-là le directeur. Alors moi, j'ai essayé de me crever à dire « c'est pas de l'histoire de l'art qu'il faut faire, ça va être la constitution d'une discipline de plus, ça va être un ghetto de plus, il va falloir créer un concours de recrutement qui aura 3 postes en agrégation tous les 10 ans, on va être dans le cas des langues rares, il faut pas faire ça. Mais ça fait rien. Le président de la République a dit on fait de l'histoire de l'art. Je sais pas du tout ce que c'est, mais je n'en veux pas du tout, c'est normal. Alors on a fait un compte, on a regardé ce que ça coûtait, et c'est bien ça qui a fait la chose. On venait de retirer 1200 postes, attendez, je pédale dans la choucroute là, 11 000, merci monsieur, je me perds, hein. 11 000 postes cette année-là, et mettre en place l'enseignement de l'histoire de l'art coûtait 9 000 postes. Alors 11 000 retirés pour en commander 9, la réponse est tombée tout de suite. Combien coûtera l'histoire des arts? Rien du tout. Combien coûtera l'histoire de l'art? Tant. Alors ça a été la décision finale qui me paraît, cette moi, être la bonne décision. C'est l'aspect révolutionnaire de l'introduction de l'histoire des arts était sauvé, alors que l'aspect conservateur d'un enseignement de l'histoire de l'art est arrivé pour créer des illusions. Le problème, c'est que mes collègues qui enseignent l'histoire de l'art à l'université n'ont rien à offrir à leurs étudiants. Vous faites de l'histoire de l'art, vous allez faire un master, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et au bout, qu'est-ce que vous aurez? Rien. Donc, leur désir était de dire, mais dorénavant, vous pourrez présenter une agrégation. Ils ne voulaient pas que ce soit un CAPES. Tout de suite, l'agrégation. Vous voyez, on est en... J'arrête. J'arrête là pour en revenir à cela. Alors, je prends trop de temps.
Non, continue, c'est bon.
Vous m'arrêtez, hein, si, parce que je m'échauffe un peu, comme vous le constatez. Donc, commande de la présidence de la République, moi je m'en suis réjoui. Chacun pense ce qu'il veut de la présidence de la République et du prince de la République, le problème n'est pas là. Alors, cette commande-là, au bout d'un moment, le label Histoire des arts se substitue officiellement à Histoire de l'art. Hein, c'est très très clair. Alors, c'est un lapsus qui réapparaît périodiquement, mais il faut s'accrocher à ce pluriel. Tout l'intérêt est dans ce pluriel. Hein. Alors, les références officielles, vous les connaissez, vous savez ça par cœur, mieux que moi. Moi, j'ai commencé déjà un petit peu à oublier. JO du 26 juillet 2008, BO 32 du 28 août 2008, et puis la référence conceptuelle. Moi, je crois que le message, le vrai, il est dans le programme, dans l'introduction. Je le lis, c'est la seule chose que je lirai du programme. Hein. L'enseignement de l'histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. Il concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants. Il convoque tous les arts. Son objectif est de donner à chacun une conscience commune, celle d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations à travers l'histoire du monde. Cette histoire du monde s'inscrit dans des traces indiscutables, les œuvres d'art de l'humanité. L'enseignement de l'histoire des arts est là pour en donner les clés, en révéler le sens, la beauté, la diversité et l'universalité. Alors, évidemment, ce lyrisme généreux, ça peut prêter à sourire. Mais si on commence pas par énoncer un vrai projet, quelque chose d'ambitieux qui peut changer, eh bien, il faut écrire des choses comme ça. Donc, moi, je l'ai marqué en rouge. Et je crois que ce que j'ajoute quand on me dit « mais pourquoi ?», c'est que quand un pays a chuté, quand une culture a disparu, qu'est-ce qui reste? C'est l'art. Deux exemples, et vous en trouvez des milliers d'autres. Qu'est-ce qui reste de l'Égypte qui a pendant 6000 ans avant Jésus-Christ a été le phare du monde? Sinon, je caricature, les pyramides et maintenant des manifestations dans la rue. Voilà. Qu'est-ce qui reste de la Grèce qui a été le terreau de toute la pensée occidentale, avec la philosophie, la littérature, les arts plastiques et tout ce que l'architecture, eh bien, ce qui reste, c'est le Parthénon et les textes, bien entendu. Et voyez, donc l'art, c'est ce qui ne disparaît jamais. Voilà, ça peut être enfoui, mais on l'exhume. Et je crois que ça, il faut le dire autour de vous. Il faut le dire. C'est ça qui reste. Que resterait-il de Louis XIV, de ses guerres multiples, de la révocation de l'édit de Nantes, de ses sottises et de ses bonnes idées, s'il n'avait pas financé Molière, Racine, Corneille, La Fontaine, s'il n'avait pas donné à Levaux et à Le Nôtre les moyens de construire Versailles, etc., etc. C'est ça qui reste de Louis XIV, du grand siècle. Le grand siècle, c'est ça, c'est l'art. C'est là. Donc, ne craignez pas de faire du prosélytisme un peu rustique comme ça, un peu manichéen, un peu grossier, pour marquer les esprits qui vont vous dire gna 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 gna. Non, c'est pas gna gna gna, c'est très important. Et l'histoire des arts peut apporter tout cela. Alors, je essaie d'aller aussi vite que possible. La référence conceptuelle, je viens de vous le dire. Le concept pédagogique. Alors, grand souci, c'est il faut que les gens travaillent ensemble. Il faut qu'il y ait un objet commun qui sera l'histoire des arts, et il faut que chacun s'en saisisse. Tout le monde est capable de s'en saisir. Alors, depuis 30 ans, le ministère essaie de faire de la transversalité. Ça n'a jamais marché. Peut-être que ça va marcher, là. En tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter. Alors, le concept pédagogique, eh bien, c'est, vous le connaissez aussi, c'est les trois piliers. Les périodes historiques, il faut qu'il y ait un fil rouge. Les adolescents, les enfants ne savent rien de l'enchaînement des choses importantes. Il faut qu'il y ait aussi un autre pilier. Celui-là, il est fondamental. C'est les six grands domaines artistiques. On n'a pas parlé de discipline. On a refusé de parler de discipline. On a désigné des territoires d'accueil qui sont ces six grands domaines. Les arts de l'espace, les arts du langage, du quotidien, du son, du spectacle vivant, du visuel. Vous les connaissez par cœur. Pourquoi on dit les arts de l'espace et pas l'architecture, par exemple? Eh bien, parce que, à propos des arts de l'espace, eh bien, le prof d'histoire peut intervenir, le prof de géographie peut intervenir, le prof d'art plastique peut intervenir. Chaque fois, il s'agit d'un territoire d'accueil. C'est pas un lieu disciplinaire bien balisé, balkanisé, où chacun dit « c'est chez moi, vous n'y rentrez pas, vous n'en parlez pas, il n'y a que moi qui sais ». Là, personne ne sait, et tout le monde sait un peu, et en articulant ça autour d'une question commune qui est suggérée par la liste de référence pour l'école primaire et par les listes de thématiques pour le collège et le lycée, avec possibilité pour vous d'inventer d'autres questions thématiques. Il faut simplement que dans chaque établissement, sous la responsabilité d'un professeur référent, puisqu'il a été dit qu'il y en aurait un, y en a-t-il, je n'en sais rien, eh bien, vous choisissez quelque chose à faire, comme cela. Vous constatez que, au collège, il y a six thématiques alors qu'il n'y a que quatre années. Ça veut dire, en clair, qu'il n'est pas obligatoire qu'il y ait la thématique de sixième, la thématique de cinquième, la thématique de quatrième, la thématique de troisième, et il en reste deux, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, vous jouez avec ça et vous les mettez où vous voulez. Au lycée, il y a 13 thématiques. Or, il y a que trois années chaque fois, et il y a trois voies. Donc, il y a beaucoup plus de thématiques que de possibilités. C'est toujours la même chose. C'est pour vous donner des idées, mais vous donner des idées à l'intérieur d'un cadre de principe et fondateur, le déroulé historique, la six domaines, la mise en corrélation d'une pratique artistique chaque fois que c'est possible avec cela. Les profs d'art plastique se sont affolés complètement. Il n'y a pas de quoi. On peut leur montrer qu'ils le faisaient auparavant. Ça aussi, il faut dire aux profs, vous le faisiez déjà, mais vous le saviez pas. S'il y a du monsieur Jourdain en chacun de nous. Donc c'est tout à fait important de continuer comme ça. Alors, je reviens sur l'intitulé. L'histoire des arts, ça ne veut pas dire qu'on ne fait que de l'histoire. On se fonde sur les œuvres, et vous l'avez vu, il est question pour chaque œuvre de trouver une méthodologie, une façon d'approcher les œuvres telles que les élèves disposent de clés quand ils sortiront et quand ils seront livrés eux-mêmes, avec l'étude des formes, des techniques, des significations et des usages. Voilà. J'approche de la fin. Je vous ai dit tout cela. Alors, j'ai vu que il y a, si vous voulez, qu'il était question de l'Europe dans ce côté. Et là, on est plutôt quand même dans le franco-français. Sauf que le programme vous oblige, vous incite à regarder autour. Alors moi, j'ai été porteur, je le suis toujours, mais de deux choses qui n'ont pas marché. Ça, ça a marché. Le reste n'a pas marché. C'est fait à la demande d'Eurobien, un groupe de travail que j'avais chargé de piloter sur l'histoire européenne. Attendez, c'est un peu compliqué. L'histoire européenne des arts en Europe. D'abord, c'était l'histoire des arts en Europe, mais c'était pas transversal. L'histoire européenne des arts, ça donnait l'idée d'une lecture européenne des arts. En mettant l'histoire européenne des arts en Europe, ça recale tout avec un intitulé qui est un peu plus important. On a fait un travail avec le CNDP, un pilote, comme on dit, avec l'école du Louvre, et on a fait un travail qui est très très bien, mais voilà, il dort. Il dort, le ministre suivant dit bon, voilà. C'est toujours comme ça. Et un autre projet aussi, une université européenne des arts, que j'ai présenté à Madame Pécresse, qui a trouvé très bien. On m'a jamais dit que ce qu'on présentait était pas bien, hein, mais il n'en est rien sorti non plus. Et je pense que avec l'histoire des arts dont vous avez la charge, avec l'histoire européenne des arts en Europe et l'université européenne des arts, il y avait simplement une continuité, une cohérence. Ça ne voulait pas dire du tout plus de travail. C'est-à-dire que chacun, au niveau où il se trouve, je dis niveau dans la progression d'un cursus élève, je n'ai pas parlé du niveau des compétences personnelles. Tout le monde est compétent pour faire tout cela. Chacun peut apporter sa contribution. Quand j'ai présenté ça, par exemple, Liézen à Poitiers, les profs des sciences s'étaient mis dans un coin, ils papotaient, pas intéressés du tout. Et puis, au fur et à mesure que je parlais, ils disaient, mais après tout, il y en a un qui se dit, mais pourquoi on fait pas quelque chose, nous? Le prof de maths dit, on va faire quelque chose. Eh bien, écoutez, oui, vous avez votre place. Il n'y a pas que le prof d'histoire, le prof de musique et le prof d'art plastique pour le collège. Le prof de maths peut intervenir pour parler du nombre d'or quand il est question des arts de l'espace, de montrer ce qui se passe sur le Parthénon, par exemple, des choses comme ça. Le prof de physique peut montrer aussi que si les colonnes extérieures du Parthénon sont plus épaisses, c'est parce que visuellement elles sont bouffées par la lumière, elles paraissent rétrécies, alors que pour qu'elles paraissent du même calibre que les autres, il faut qu'elles soient un peu plus larges. Vous voyez, des choses comme ça. Le prof de SVT et moi, eh bien, le canon humain, il n'a pas arrêté de changer. Hein, des personnages étirés, des personnages ratatinés. Vous parlez de cela, ça fera quoi? Ben, ça fera peut-être une demi-heure dans l'année au collège sur une intervention ponctuelle par rapport à un projet global. Et là, vous apportez quelque chose. Autrement dit, tout le monde a sa place là-dedans. Écoutez, alors, sujet de satisfaction et d'inquiétude. L'école primaire, il y a des gens qui font un travail formidable, mais il faut, on l'a dit tout le temps, l'essentiel c'est apprendre à lire, à écrire et compter, ce que je pense d'ailleurs. Hein. On peut apprendre à lire et à écrire en faisant de l'histoire des arts, c'est possible. On change de support, c'est faisable. Mais il faut qu'il y ait une stimulation de tout le monde pour que ça se fasse. Actuellement, le pivot c'est le collège, parce qu'on a dit obligatoirement, le prof d'art plastique ferait 50%, musique 50%, histoire 25%. Ça représente un volume horaire assez considérable. Mais il ne faut pas qu'ils s'en déduisent que les autres ne font rien. C'est, vous voyez, quelquefois, il y a des effets négatifs. Et puis, au collège, il y a quelque chose qui est important, c'est le brevet qui vient d'apparaître. Dans sa version définitive pour 2011, pour les élèves qui se présentent, il y a une épreuve d'histoire des arts. L'expérience prouve que tout enseignement qui ne s'est pas clôturé par une évaluation symbolique visible et terminal est un enseignement qui ne dure pas. Donc on peut penser qu'au collège, les choses sont en place pour que cela dure. Sujet de satisfaction donc. Sujet de satisfaction exactement aussi, c'est la relation avec le ministère de la Culture, qui a fait un travail formidable là-dessus, proposant des produits, des collections, des choses comme ça. Et ça continue, c'est très bien. Sujet d'inquiétude maintenant, c'est le lycée. Le lycée, il se passe pas grand chose à ma connaissance. Il est vrai qu'il est en réforme. Et si, contrairement à ce qu'on souhaitait, il n'y a rien au diplôme terminal qui vérifie qu'il y a eu un acquis, eh bien, il n'y aura rien du tout. Déjà, la plupart des chefs d'établissement enfin ceux que je connais au moins, disent « mais c'est pas pour nous tout ça ». D'ailleurs, les preuves, il y a déjà une formation en histoire des arts, en option littéraire, alors que c'est pas la même chose. Là, c'est quelque chose à inventer, qui est déjà inventé, et qui concerne tout le monde. Alors la conclusion de tout cela, et puis j'en ai fini, ben que il faut continuer à y croire, forcément. Il faut veiller, chacun à l'endroit où il se trouve, et puis peut-être se rappeler, vous savez, la fameuse devise de Guillaume d'Orange, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Bon courage.